bonsoir et bienvenue dans ce 37e épisode de la deuxième saison de Culture Saint-Yor. C'est bien sûr l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple Saint-Yor. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la victoire du Racing à 3 samedi soir. Un succès 3 buts à 1 qui permet encore d'espérer une qualif européenne. Pour finir en apothéose cette saison, nous débattrons de tout ça au cours de la première partie de l'émission. À la mi-temps, on jouera bien sûr avec le quiz de Culture sur 100 heures. Enfin, deuxième partie, dans l'actu du Racing, nous parlerons notamment de la N2 lensoise, hein, encore un petit peu plus au bord du précipice. Et puis, en fin d'émission, on se projettera évidemment sur ce dernier match bouillant qui s'annonce à Bollard samedi avec la réception de Monaco. Pour débattre de tout ça, je vous présente le casting de ce 37e épisode. Après une tournée mondiale pour dédicacer Lens Secret d'Histoire, il fait son retour dans l'émission. C'est Greg Lallemand de La Voix du Nord et La Voix d'Espoir qui est avec nous. Salut Greg.
Lens Secret Transfert, hein. J'essaie d'être un peu précis.
Oui, Secret Transfert, oui, évidemment.
C'est pour faire un peu de pub en plus. Au-delà de ça, je suis super content de vous retrouver. Ça fait un bout de temps, effectivement, je ne t'ai pas passé. Les vacances, un peu de soleil, je vous retrouve et vous êtes toujours aussi magnifique. Donc, tout va bien.
Merci Greg. Va-t-il être aussi solide sur que le Racing dans la dernière ligne droite? Rien n'est moins sûr après sa défaite dans le quiz la semaine dernière. Guillaume Perrard est avec nous également. Salut Guillaume.
Salut Valentin, bonsoir à tous les supporters en soi.
Il a supporté les stacks durant 28 minutes après l'ouverture du score avant de retourner sa veste à la 45e après le but du 2-1 de Kalim Wendo. C'est Sébastien Dallet qui sera notre troisième chroniqueur. Salut Seb.
J'adore tes présentations en tout cas à chaque fois. Vraiment, je voulais te le dire, je n'avais pas encore dit. Bonsoir tout le monde, bonsoir.
Salut Seb. Enfin, il a dû renoncer en dernière minute à se rendre au stade de l'Aube samedi soir. Parfois, la vie est si cruelle. Antoine Combes clôture les présentations. Salut Antoine.
Bonsoir à tous.
Allez messieurs, il est temps de débarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture Saint-Yor sur les réseaux. C'est sur Twitter, Facebook et Instagram que ça se passe. N'hésitez pas non plus. Eh bien, vous rentrez sur le site web de Culture Saint-Yor, culturesaintyor.com. Vous y trouverez plein d'articles sur le club. Et bien sûr, notre rendez-vous comme un lundi, c'est l'édito de Culture Saint-Yor. Et c'est Mathieu, aujourd'hui, qui nous décrit cette vague, la vague Saint-Yor qui déferle, bien sûr, à Bollard, mais aussi dans tous les stades de France hein, cette saison, enfin, quand elle a le droit de bien se déplacer. Un public complémentaire de ce groupe qui, depuis deux saisons, réussit eh bien, la mission de redorer le blason lensois et d'honorer ses valeurs. Je vous conseille d'aller sur culturesaintyor.com pour lire comme un lundi. Ce Racing nous fera rêver jusqu'au bout. Ce Racing nous rendra fiers jusqu'à la fin. Francaise et ses hommes vont nous offrir un dernier round de folie samedi soir prochain. Grâce à sa victoire 3 buts à 1 au Stade de l'Aube samedi, eh bien, les Lensois sont encore en course pour l'Europe à l'orée de la 38e journée. Un match comme les Saint-Yor nous en ont offert cette année. Retournement de situation, émotion, beau jeu. Le tout se poudrait d'un incroyable public de nouveau venu en masse au Stade de l'Aube. C'était eh bien, la folie. Messieurs, premier tour de table pour eh bien, commencer l'émission. Votre sentiment tout simplement après cette victoire 3 buts à 1. Et je vais donner la parole au Troyau Lensois. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est pour Sébastien Dallet, en tout cas, Seb, ton sentiment après la fin du match.
Ravi, forcément, ravi pour deux choses, puisque même si avant le match, je n'étais pas inquiet pour le maintien de 3, donc 3 qui se maintient en Ligue 1, donc ça c'est bien, puisque la dernière épopée, c'était, j'ai eu l'occasion d'y participer pour le dernier maintien de 3 il y a 16 ans en arrière. Et puis, donc, la relève est assurée et forcément, Lens entretient l'espoir fou de peut-être tutoyer l'Europe la saison prochaine. Il y a encore une dernière marche qui va être extrêmement compliquée, qui n'est pas non plus que dans les pieds des Lensois. Mais en tout cas, beaucoup de fierté pour ce match. Le résultat va bien pour tout le monde, donc ça me va bien. Voilà.
Donnez-nous votre avis dans le chat, dites-nous votre sentiment hein, ce lundi après cette victoire lensoise dans le chat Facebook et YouTube de l'émission. Je vais donner la parole à Antoine Combes, ton sentiment après cette victoire à 3. Antoine, c'est quoi?
Désolé, j'avais mon micro coupé. Encore une, parce qu'encore une fois, on a un scénario qui est compliqué, comme à Reims, comme contre Nantes. Où on concède l'ouverture du score et finalement on s'en sort avec la victoire. Et encore une finale à jouer contre Monaco vu les résultats des autres matchs.
Allez, on passe à Guillaume Perrard. Quel est ton sentiment, toi, après cette victoire à 3?
Ouais, bah un peu ce qu'Antoine a dit, hein, un peu dans le même tonneau. Et c'est vrai que surtout, c'est le plaisir de se dire qu'il reste un dernier match avec de l'enjeu. C'est vrai que si on gagne pas, bon, bah, ok, on va faire une belle fête samedi. Mais bon, là, il y a quand même ce piment supplémentaire, même si on n'a pas toutes les cartes en main. C'est quand même s'offrir encore une dernière soirée, un stade plein. Et puis, il y a un gros match contre Monaco qui lui jouera aussi sa deuxième place. Et puis, du coup, par rapport à l'an dernier, vraiment pouvoir goûter à ce Lens Monaco décisif. Et ne rien regretter, tout tenter, et puis après, advienne que pourra, mais au moins de pouvoir vivre ces dernières émotions avec cette équipe, j'espère que l'année prochaine aussi ça continuera, mais au moins voilà, avoir ce sentiment de va boucler la boucle et d'aller au bout avec eux.
Allez, on va terminer avec toi, Greg. Ton sentiment après cette victoire à 3 et ce match qui s'annonce fabuleux.
C'est de la bombe, bébé. Voilà ce que j'ai pensé. Parce que ça va être assez simplement, c'est exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire, je pense que ce groupe, qui, quel que soit son avenir proche ou à long terme, avait juste le droit, avait juste, pardon, c'est sa récompense. Voilà. Au-delà même du public qui a attendu ça depuis longtemps, ce qui va se passer samedi, c'est pour tout ce groupe qui a ramené un peu de fierté. Auprès des supporters de Lens, auprès de tout l'environnement sans et hors, ils méritaient simplement d'avoir un vrai match, une vraie finale, un vrai truc pour. Et on va tous vivre un samedi, je pense, de haut en couleur. Et voilà, juste pour ce groupe, je pense que c'est voilà qui est sympa, qui joue au foot, et bien au foot, et surtout qui a un état d'esprit extraordinaire. Je pense que c'est une juste récompense. Et c'est pour ça que je suis content, un, qu'ils aient gagné à 3 pour eux, et surtout que les autres résultats ont été favorables et qui permettent cette énorme finale samedi à Bollaert.
Ouais, en tout cas, le résultat de Nice, hein, a été favorable pour le Racing. Et c'est vrai que ça nous donne, pardon, encore cet espoir de pouvoir espérer quelque chose face à Monaco samedi prochain. C'était pas gagné, hein, pourtant, ce match à Reims. Hein, on en parlait la semaine dernière. On s'attendait un peu à ce match face à. Oui, à 3. Sébastien, c'est bien de me rattraper. Je dis ça, je dis Reims parce qu'on s'attendait à un match un petit peu. Similaire à celui auquel on a eu à faire face à Reims, justement. 30 premières minutes assez compliquées, Seb, du coup. Et c'est vrai que l'ouverture du score eh bien, est venue assez vite pour les Troyens. Tu t'es dit quoi au bout d'une demi-heure? Tu t'es dit que ça allait être très compliqué, même si on sait que les Lensois ont l'habitude de revenir assez facilement dans les matchs ces derniers temps.
Ouais, mitigé dans le sens où effectivement, refaire une performance, regagner encore à l'extérieur, deux matchs de suite déjà, deux matchs à domicile gagnés, c'est compliqué, deux matchs à l'extérieur, c'est encore plus compliqué. Et après, avec Lens, tout peut arriver. Alors, j'avoue que je n'étais pas très très serein quand même, vraiment. Après, franchement, le début de match ne m'a pas inquiété du tout. Voilà, quand on voit le but, ça résume un petit peu, si tu veux. Voilà, j'ai pas trouvé une équipe troyenne qui a mis réellement en danger les Lensois. Donc voilà, un peu un but comme ça, un peu contre le cours du jeu. Ou bon, voilà. Après, je sais qu'il se passe toujours plein de choses en deuxième mi-temps, donc, la magie a opéré une nouvelle fois. Et puis cet état d'esprit encore une fois et cette magie, ce qui se passe, c'est incroyable. Donc, je l'ai vécu comme un réel supporter et non pas comme quelqu'un qui va faire une émission et préparer l'émission du lundi, tu vois, vraiment. Donc, je me suis laissé emporter. J'étais dans une autre ambiance en plus, dans un bar du côté de Béthune. Voilà, donc je me suis laissé porter par l'ambiance. Il y avait des supporters lensois aussi. Donc, j'ai passé une agréable soirée. Voilà. Donc, et forcément content du résultat, comme je disais tout à l'heure.
Franquez l'a dit quand même, hein, en réaction d'après-match, que les 30 premières minutes n'étaient pas terribles. Et Guillaume, c'est un peu ton avis. Et les 30 premières minutes, tu t'es posé des questions après l'ouverture du score troyenne, surtout que Lens, bon, certes, avait un petit peu le ballon, mais n'en faisait pas grand-chose.
Bah, honnêtement, j'ai trouvé un peu sévère les commentaires. Et c'est vrai que Franquez l'a dit, même les joueurs lensois, leurs 30 premières minutes, j'ai entendu à la mi-temps, je crois que c'était Sotoka ou. Enfin, j'ai trouvé ça sévère sur leurs propres prestations. J'ai pas trouvé, effectivement, on n'était pas flamboyant. Par contre, de là à dire qu'il nous manquait tout sur la 30 première minute, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que Troyes, effectivement, a démarré son match en prenant beaucoup de risques à la relance. D'ailleurs, c'est sur une relance où ils prennent beaucoup de risques, ils sont à deux doigts de se faire intercepter. Et puis, bah, ils arrivent à passer le premier rideau lensois, puis ça fait une action qui va au fond, au bout. Mais non, moi j'ai pas trouvé du coup. J'ai trouvé qu'on était dans le rythme. Bon, après, c'est vrai qu'on avait peut-être un peu de mal à se créer des occasions, mais après notre jeu s'est mis en place, nos circulations de balles, enfin, on voyait des passes, une belle circulation, des enchaînements. Et puis après, c'est vrai qu'après, bon, bah, on sentait qu'une équipe qui progressivement a pris la mesure de l'équipe troyenne, même si on était mené, même si eux avaient marqué. Alors, c'est pas forcément. C'est vrai qu'à Reims, etc., on prend des buts, on prend un but, on a l'impression qu'ils font rien. Bon, Troyes, ils jouaient, ils tentaient des choses. Donc, je veux dire, c'était pas non plus un scandale qui ouvre le score. Après, c'est une réussite, hein, parce qu'elle est contrée. Et puis, ils ont maximum de réussite sur cette occasion. Mais non, moi, j'ai trouvé sévère les commentaires ce matin par minute. Mais bon, après, c'est les acteurs qui le disent, donc ils sont mieux placés que moi. Et du coup, en tout cas, moi, devant ma télé, j'étais pas paniqué par rapport à ce début de match. Et l'ambiance des supporters et tout ça fait que de toute façon, c'était un match où, sur la durée, voilà, on avait le temps, quoi. On avait le temps et on l'a montré ces derniers temps justement qu'on prend le temps de construire nos victoires. Et même si on est mené, c'est pas ça qui nous freine, qui nous fait paniquer et nous fait faire n'importe quoi. Donc là-dessus,
Oui,
moi, j'avais pas d'inquiétude de plus que ça.
ouais, c'est vrai que Troyes n'était pas non plus méga dangereux, surtout que leur but, en plus, Antoine, est vraiment chanceux quand même, hein, parce que même le décalage à gauche, et déjà, c'est une balle contrée qui arrive à finalement être décalée à gauche. Derrière le tir de Biancone, qui est contré par Fofana, on se dit que c'est un peu méga réussite pour les Troyens quand même, l'ouverture du score.
Bah c'est ça, c'est totale réussite, mais bon, après, comme on dit, la réussite, ça se provoque aussi, hein. Si Biancone, il prend pas la confiance de tenter un extérieur du droit, alors que bon, c'est pas un joueur au profil offensif, bon, bah, la frappe n'a pas de risque d'être contrée, d'aller au fond. Donc, c'est quand même ça qu'il faut saluer du côté de Troyes. Après, bon, sur l'ensemble de leur première mi-temps, c'est très cher payé qu'ils s'en sortent avec un but, hein. Et c'est ça qui est d'autant plus frustrant parce que, contrairement à ce que dit Guillaume, moi, je suis pas d'accord, je trouve que Troyes n'a pas fait grand-chose hormis défendre. C'était récupération basse. Soit on essaie de repartir de derrière, mais il y avait le gros pressing lensois, soit on envoie un long ballon sur Tousgard, qui au début nous a fait pas mal souffrir, notamment Danso. Et ça m'a d'ailleurs étonné, parce qu'il s'est fait même manger physiquement, pas forcément en vitesse, mais physiquement, alors que c'est pas la qualité première de Tousgard, alors que c'est l'une des qualités premières de Danso. Donc sur ça, il y avait de quoi être un peu inquiet, mais après, bon, le naturel est revenu, on va dire. Mais c'était très frustrant de voir ce déroulé de match, mais bon, on a aussi eu un peu trop l'habitude de le voir ces derniers temps. Mais moi, pour être honnête, après 30 minutes, j'étais quand même inquiet. Pas du fait que certains disaient il nous manque un peu de tout ça. Je ne me retrouvais pas dans l'animation offensive. Je trouve qu'on était en manque d'idées et je me suis même dit, ben, un peu dans l'excès, hein. Mais je me suis demandé si on avait préparé le 5-4-1 de 3, si on s'était pas un peu trop concentré sur nous et pas un peu oublié bon, comment on peut déstabiliser cette solidité troyenne derrière. Parce que jusqu'au corner de Klos avec une déviation de Sotoka, t'as rien quoi. T'as
Ouais,
vraiment zéro casse, tu mets pas
c'est
de
un
danger
peu à
quoi.
l'image de Seko Fofana et de David Pereira qui n'ont pas pu su prendre le jeu en main, effectivement, je pense, Antoine.
Ouais, c'est ça. Je nous ai trop vite trouvés en manque de solution alors qu'on était en début de match. Bon, après, il y a l'ouverture du score qui fait que 3 va resserrer encore plus ses lignes,
Ouais.
surtout dans les minutes qui suivent le but. Mais moi, j'étais inquiet jusqu'à l'égalisation,
Ouais, dans le chat, Christophe nous dit que
en
sur les
fait.
30 premières minutes, c'est surtout Da Costa qui était dans le dur. Et donc, on peut comprendre qu'ils ont estimé qu'ils avaient du mal dans le jeu. C'est ce que nous dit en tout cas
Non,
Christophe dans le chat.
je n'irai pas jusqu'à viser un joueur en particulier, c'est l'ensemble de l'équipe, hein, que ça part même des défenseurs. Hein. Bon, il y avait Gratite et Medina, par contre, qui essayaient quand même, toujours dans leur jeu vers l'avant, de progression balle au pied ou de passe verticale, qui, eux, essayaient quand même. Mais dès qu'on passait les trois centraux, que ce soit les pistons, les milieux ou les offensifs, l'ensemble faisait que c'était compliqué pour tout le monde sur les 30 premières minutes, quoi.
Ouais, il y a Guillaume aussi qui nous dit, je suis du même avis que Guillaume Pérard, justement, Guillaume et Guillaume. Troyes a fait du 3, ils ont fait ce qu'ils faisaient sur leur dernier match. Après, on avait le temps. Et comme face à Clermont, ce but pris n'inquiète pas. Et c'est vrai que ces derniers temps, même si Lens encaisse le premier but, Greg, on a eh bien cette faculté à moins s'inquiéter qu'avant, on va dire, notamment avec cette maturité que l'équipe a pris hein, au fur et à mesure eh bien, de la saison déjà, et puis de ce qu'il montre ces derniers temps également, hein, cette capacité à réagir et à retourner les scores.
Ouais, alors moi je suis un peu d'accord avec tout le monde, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé aussi très sévère, juste vite fait, l'entame de match un peu sévère, les réactions, parce que Lens a plutôt attaqué le match pour imposer son jeu. Il a effectivement, et là par contre, je suis d'accord, moi j'ai trouvé que David Pereira d'Acosta, on attend beaucoup plus de lui aujourd'hui évidemment, mais dans ses petits périmètres, c'est là qu'on l'attend, et il a eu un début de match un peu compliqué, donc il manquait peut-être de Lyon à ce moment-là, mais c'est pas non plus une 30 premières minutes que j'ai trouvé catastrophique, et puis 3, bah, 3 bouger. J'ai pas mal d'équipes aussi cette année à domicile. La relation technique entre Tousgard et Ripart a été très bonne au début sur les remises, etc. Donc voilà, c'était finalement un début de match assez équilibré, même si c'était pas tout à fait la même manière de jouer. Après, évidemment qu'en ce moment, il y a une confiance qui se dégage de cette équipe du Racing Club de Lens qui est absolument extraordinaire. Que moi, je me demande, elle ressemble un peu à celle de la vague qui avait emporté Lens jusqu'au titre en 98, parce qu'on a le sentiment qu'il y a un rouleau compresseur qui, à un moment donné, va faire la différence. Excusez-moi. Et à Reims, pardon.
Ça va aller, Greg. C'est l'émotion, ça va aller. On va essayer de se qualifier, mais ne t'étouffe pas non plus. Je vais passer la parole à Seb.
Non, mais excusez-moi, mais ouais, mais je n'ai plus l'habitude de parler avec vous. Vous êtes trop fort pour moi maintenant. Et clairement, à Reims, pareil, cette équipe, elle prend le premier but et elle ne se désunit pas, elle ne perd pas le fil. C'est Guillaume qui disait cette équipe, elle ne panique pas. C'était exactement ça. Elle reste dans ce qu'elle fait. Et c'est là qu'on voit qu'elle a mûri, effectivement. L'année dernière, elle avait parfois tendance à se précipiter après avoir pris un but et à perdre un peu cette solidité, cette unité qui fait qu'à un moment donné, comme elle est plus forte, et ben elle finit par l'emporter. Et elle a surtout une foi qui est extraordinaire depuis 2 mois. Excusez-moi, mais les matchs qu'elle renverse à 10, Nice, Nantes, on peut tous les refaire.
Ça, en termes de
match
confiance,
à Paris.
Je veux dire.
Ah bah là, je pense qu'ils sont tous au maximum du maximum du maximum, un, d'implication et deux, de confiance en eux. Alors ça se dégage ça, il y a 6000 mecs qui se déplacent pour aller les voir et qui croient dur comme fer. Moi, je me souviens d'une époque où quand Lens prenait le premier but à domicile ou à l'extérieur, il y avait comme une chape de plomb sur Bollard ou sur les parquages extérieurs qui faisait que bah voilà, ce ne sera pas corsé de soirée. Et même quand Lens ouvrait le score, il y avait ce truc un peu fataliste de dire ouais, bah, ça va à un moment, ça va mal tourner. Ouais. Là, ça, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est que même quand il y a des coups durs, des expulsions, des ouvertures du score adverse, eh ben, il y a le sentiment qu'à un moment, ça va tourner pour le Racing, à la 95e ou avant. Et là, les deux buts qui arrivent avant la mi-temps, ils tombent un peu du ciel quand même, parce qu'il n'y a pas non plus des millions d'occasions à ce moment-là. Et c'est presque logique, parce qu'il y a une équipe qui est hyper sereine et qui continue à jouer, qui à un moment donné est audacieuse aussi, parce que le but de Kalimuendo est hyper audacieux. Et donc, elle tente des choses, et comme elle est en pleine confiance, ça réussit. Voilà.
C'est le Real de Madrid français.
En tout cas, on n'a pas des masses d'occasions, c'est vrai, Greg, mais on a un joueur qui sort du lot hein, et on le sent petit à petit. C'est Jonathan Clauss. Alors, ça me fait rire parce que justement, on en parlait la semaine dernière et on disait dans les notes c'est vrai que certains disent qu'il est un petit peu moins bien en ce moment. Et là, il nous sort un match quand même, un match 3 étoiles samedi soir face à 3.
Ce sera mon coup de gueule, hein. Ça peut être un coup de gueule pour moi, là, je vais vous le dire.
On en parlera après. J'ai prévu un point justement là. Maintenant, on va commencer avec Sébastien sur Jonathan Clauss. Jonathan Clauss on fire, c'est lui un petit peu qui réveille avec Kalimuendo, mais Kalimuendo, on en parlera dans les notes tout à l'heure. Mais Jonathan Clauss, il réveille quand même un petit peu l'équipe, notamment sur cette action là où il inquiète un peu Gauthier Gallon sur cette frappe un peu lobée. Et puis sur ses corners, hein, il y a eu de multiples corners en première période. Il y a d'abord une tête de Sotoka qui est repoussée très bien par Gallon, et puis un énième corner amène l'égalisation de Kevin Danso. On a vu un close 3 étoiles Seb, samedi soir.
Alors, j'anticipe le coup de gueule de Greg, parce que voilà, il a fait son match. Jonathan Clauss a fait son match. Après, c'est le seul qui tire tous les coups de pied arrêtés. À un moment donné, il faut bien qu'il marque des buts sur coup de pied arrêté, qu'il se crée des occasions aussi. Ouais. Donc, la tête de Sotoka, c'est Sotoka qui est bien placé pour mettre la tête aussi, tu vois. Enfin, voilà. Jonathan Clauss a fait son match. Voilà. Et contrairement au match précédent, on en avait parlé la semaine dernière, souviens-toi, c'est qu'il était moins en réussite. Parce que le nombre de centres, il le fait toujours, en fait. Il est toujours présent. Il arrive toujours à il tire tous les coups de pied arrêtés. Il fait énormément de centres par match. Et il manquait de réussite, en fait, tout simplement. Et là, il a trouvé, effectivement. Il a trouvé, après, Danso, c'est un cafouillage où il récupère la balle qui marque. Le coup franc qui marque, c'est
on en parlera. Alors, pas sur Kalimuendo, on peut pas lui reprocher quoi, pour le coup, quand même.
Ah non, Kalimundo, c'est une balle en profondeur. Après,
ouais, une belle ouverture. Ouais.
Le but qui marque, mais laisse tomber. Enfin, mmh. Moi, j'ai...
Non, mais Jonathan Clauss est un peu impliqué sur les trois buts quand même.
Mais il est impliqué, ouais, voilà, il est impliqué.
Pas un peu.
Un peu de passer à but. Hein.
Non, mais il remet des coups francs. Hein. C'est pas parce que Medina, il fait semblant de la toucher qu'on va lui en vouloir à Clauss, non
enfin, Non, mais justement, mais c'est, au contraire, ça, c'est très bien tiré parce qu'on dit toujours qu'il faut les tirer comme ça au deuxième poteau et cadrer. Parce que si jamais c'est jamais touché par personne, et ben ça peut surprendre le gardien.
Il s'est pris le même. Il s'est pris même à 3 en 2014 voilà. À la 88e.
Exactement. Voilà. Donc non, non. Voilà. Je dis juste qu'il a fait son match et il a fait un très bon match et ça me fait plaisir. Et j'espère que Deschamps aura vu et j'espère pour Jonathan qui pourra rejoindre l'équipe de France en tout cas pour la rentrée. Voilà. Donc très bien. De là à dire match exceptionnel de oui. Klose.
Merci. Ouais, ouais, moi je pense quand même. Ah ouais. Mais chacun son avis, hein, Sébastien. Oui, droit d'avoir. Oui, non, mais chacun son
bien
avis.
Moi, si vous voulez gagner.
De mon avis personnel, j'ai trouvé qu'il est, bah, déjà qu'à partir du moment où t'es impliqué sur les trois buts, déjà c'est quand même très important. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il était soit la conclusion, soit l'amorce de beaucoup d'occasions du Racing sur ce match-là. On a vu différents sites, voilà, qui permettent de noter les joueurs, qui le mettent à une note assez élevée, relativement élevée. Guillaume, tu penses toi que c'est la multiplication des occasions qui font que bah, on l'a plus vu ou alors c'est vraiment qu'il était vraiment dans un bon soir?
Il était dans un très grand soir et on a oublié de dire aussi c'est que en première mi-temps, juste c'est vrai qu'il y a la séquence où il tape son coup franc, il y a corner, il fait corner, il y a tête de Sotoca, il y a recorner, il y a but. Mais avant, on a quand même eu deux trois occasions où il arrive à déborder et à centrer et il y a Sotoca et Kalimundo qui tentent de l'interception, enfin, qui essaient de au premier poteau de d'assez. Donc il était vraiment disponible, il faisait des appels, ça combinait bien sur le côté avec Sotoca, il arrivait à prendre la profondeur côté droit. Et puis, on avait justement insisté contre Reims sur ces mauvais coups de pied arrêtés, ces corners. Et là, justement, c'était vraiment des coups de pied arrêtés très dangereux, en fait. Et c'est très compliqué. Enfin, honnêtement, des tireurs de coups de pied arrêtés à Lens, on s'est souvent plaint qu'on n'avait pas de qualité, etc. Et donc là, c'est très, très impatiable. On a eu un arrière-droit à une époque qui en tirait très bien aussi. Et du coup, bah Jonathan Clauss, là-dessus, il fait super plaisir aussi, quoi. Parce que
il a un côté Fred Mérieux quand même, dans la manière de déposer les ballons, de trouver des trajectoires un peu fuyantes qui peuvent peut-être. Enfin, franchement, il peut frapper fort, coup de pied de l'extérieur, de l'intérieur.
Flottante aussi, ouais. Qualité de pied Ouais, et donc, il était, pour moi, il était en super forme. Et voilà, une passe décisive, une et demie avec le corner, on va dire, un but, voilà, c'était super. Et au-delà de ça, le contenu de son match était top. Donc là, rien à dire, quoi. Masterclass.
Ouais, masterclass. Et ce là, ouais.
Pardon?
Masterclass, comme on dit.
Ouais, c'est ça, masterclass. et ce type de coup franc, comme Sébastien le dit, c'est vrai que il peut pas la tirer direct. Donc il la brosse pour essayer qu'elle soit interceptée, mais il la cadre. Au cas où personne ne la touche, ça entre. Comme je disais, on s'est pris celui-là à 3 en 2014, hein, quand on jouait la montée avec Camboiré. À la 88e, on perd 1-0, on prend un coup franc comme ça. Alors qu'en
j'ai
plus,
pas le souvenir, ça, pour le coup.
Bah, on avait un joueur blessé, en plus, il me semble. Il ne rentre ça pas la balle, il y a coup franc, et puis il tire Johan Cour, il tire un truc. Enfin, je me rappelle, j'étais en parcage en plus. Mais voilà, c'est le genre de coup franc qu'il faut savoir tirer. On en avait pris aussi contre Kaiserslautern, il me semble.
Deux fois. Moi, je me permets, après, je vous
coupe. Vas-y, Greg, vas-y.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, en fait. Il n'a pas fait un match exceptionnel, Jonathan Clauss. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, tout le monde est venu très exigeant avec lui, alors que des matchs de ce niveau-là, il en fait très régulièrement, ce qui fait quand il fait un match juste moyen plus, tout le monde dit « Ah ouais, mais aujourd'hui, bon, bof ». Alors, évidemment, c'est normal parce qu'aujourd'hui, il a un statut d'international, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas exceptionnel au sens propre du terme. Parce que des matchs comme ça, il en fait très, très, très régulièrement. Et je trouve les gens de manière de plus en plus difficile avec lui. Quand même, depuis 2 ans, quoi qu'on en dise, l'essentiel du jeu lensois, il bascule à droite et pas qu'un peu. Je pense que le jour où il partira pour trouver la même force de percussion et aussi de combinaison dans le cœur du jeu, ça va être compliqué de trouver le même niveau. Oui, je suis d'accord avec Sébastien. Ses stats, elles sont ce qu'elles sont aussi parce qu'il tire les coups de pied arrêtés. C'est clair, sauf que des joueurs qui tirent des coups de pied arrêtés en championnat, il y en a énormément, et des mecs qui sont à 12 passes décisives.
Il n'y
en a pas des masses, et ils n'ont pas tous. Et il y en a, ils ont dans l'axe, ils ont des Mbappé, ils ont des Messi, ils ont des Carl Toko et Cambi, etc. Et en fait, aujourd'hui, il ne faut pas regarder que les stats. Moi, ce que je regarde, c'est que ce que fait Jonathan Clauss de manière régulière. Alors évidemment, des fois, il est un peu moins bien, un peu plus en réussite. Des fois, il a même fait des matchs moins bien où il a finalement sauvé par ses stats. C'est vrai, c'est arrivé. Mais concrètement, un arrière droit, un arrière latéral aujourd'hui aussi dangereux pour l'équipe adverse en France, ça n'existe pas. Et c'est le RC Lens, c'est le 16e budget de France qu'il a. Donc, je ne demande pas que les gens disent qu'il est bon quand il n'est pas bon. Mais je trouve vraiment qu'en ce moment, je vois des fois, ah ouais, bah aujourd'hui, et puis voilà, avec l'équipe de France. Et attendez, regardez les matchs de Klose, même quand il est moyen, c'est quand même là que, de là qu'on attend toujours l'étincelle quasiment dans le jeu du Racing Club de Lens.
Bon, alors... après, c'est normal, pardon, parce que il a une faculté, il a un pied extraordinaire. Tu parlais de Mario tout à l'heure, effectivement. T'as Sikora aussi qui avait un bon pied, par exemple, pour prendre un peu le même poste. Après, c'est aussi normal parce que côté gauche, tu joues avec un Frankowski qui va moins percuter puisqu'il va moins se servir de son pied gauche. Donc forcément, le jeu
Aïdara, a tendance… Là, l'année dernière, c'était pareil. Ouais. Il y a un vrai différentiel quand même.
Mais il est évident que quand tu as un joueur comme ça qui est capable de déposer des galettes à tout moment, bien sûr que c'est une force énorme dans ton équipe. Donc, je suis tout à fait d'accord.
Et je finis là-dessus, juste parce qu'on parle un peu de Didier. J'ai entendu parler de Didier Deschamps. Mettez-vous à la place des Mbappé, des Benzema, etc. Ils ne connaissaient pas Klose il y a un an. Hein. Mais quand ils le voient à l'entraînement ou même dans les matchs, on sait qu'il va centrer 10, 15 fois et qu'en général, il y en a une sur deux qui sera très exploitable. Bah, ils ont très envie que ce mec-là il soit dans le groupe hein, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être alimentés. Et évidemment, avec tout le respect que j'ai pour Florian Sotoka, pour Ignatius Galago et même pour Kali Mwendo ou pour Saïd, bah, à un moment donné, on est aussi tributaire des mecs qui sont dans la surface pour soigner ses stats. Et lui, bah, lui il envoie quand même une paire de centres dans un match qui sont bien coupés, etc. Peuvent aller au fond à chaque fois. Donc voilà, moi je trouve vraiment que de manière générale, les gens sont parfois un peu durs avec Jonathan Klose. Ce qui n'empêche qu'évidemment, on doit être exigeant avec lui comme avec les autres.
Alors, les gens sont durs avec Klose, mais moi, je te trouve dur sur le fait que tu dises que c'est pas un match exceptionnel quand il est impliqué sur les trois buts
parce que ça arrive souvent. Non, rien qu'au match aller.
Oui, au match aller, je suis d'accord. Mais c'est pas courant qu'un joueur soit inclus sur les trois buts, quoi.
Non, mais je parle pas d'exceptionnel dans le sens de manière générale. À Reims, j'ai entendu, ouais, il était moins bon. Moi,
on a parlé la semaine dernière, d'ailleurs.
Donc, je trouve vraiment. Après, c'est peut-être parce que j'aime bien le jeu de Jonathan Klose, c'est que j'aime bien sa faculté à d'effort contre effort, d'attaquer contre attaquer, de percuter, d'être en confiance et d'alimenter la passe qu'il fait pour Kalimundo. Évidemment que c'est une inspiration de Kalimundo. Qui est extraordinaire, évidemment qu'elle est extraordinaire. Déjà, il pensait juste après le rebond, mais il brosse le ballon et regardez bien l'action. Et dès qu'il brosse le ballon, il fait le sprint, il passe devant Sotoka et il vient amener déjà un surnom dans la surface au cas où il y a une remise. Et ces efforts-là, c'est pas simplement en fait que c'est pas simplement qu'un pied, c'est aussi cette faculté à venir amener le danger dans des zones où normalement un arrière droit ne doit pas les amener, franchement.
Mais autant le premier à féliciter le buteur, hein, c'est important, il est premier, pas décisif sur Kalimundo, il le félicite en premier, donc ça c'est super.
Oui, mais et Danso est le deuxième après avoir fait un sprint de 75 mètres.
Lui il part de plus loin.
On l'a vu aussi, ouais. Non, mais autant je regrette ceux qui critiquent Klose dès qu'il ne fait pas un match où il fait deux passes décisives. Il faut arrêter. Autant sur le match d'avant-hier soir, où il est impliqué sur les trois buts, on peut dire que c'est un très 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 bon match.
Je vais vous mettre d'accord.
Exceptionnel, mais il faudrait donner la parole à Antoine aussi, qui n'a pas donné son avis. Mais vas-y, Guillaume, termine.
Non, mais c'est tout. Je voulais vous mettre d'accord avec Greg et toi, vous êtes d'accord en fait. C'est juste une histoire de sémantique. Il a fait un très très bon match. Voilà.
Mais les mots ont un sens. Ils sont pas. Oui. Il a fait un excellent match qui n'est pas exceptionnel. Voilà.
Parce qu'il est tellement fort que c'est courant. Voilà.
Allez,
voilà.
Antoine, vas finir sur le sujet de Jonathan Klose.
Moi, je pense qu'on a oublié d'évoquer un aspect de son jeu important pour dire que son match a été très bon. Comme ça, je fâche personne. C'est qu'il a été complet sur les deux aspects, que ce soit offensif, mais aussi défensif. Bon, vous avez très largement évoqué l'aspect offensif. Donc moi, j'ai juste évoqué l'aspect défensif où il a été en réussite, comme sur ses corners, comme sur son coup franc. Il a été en réussite sur tous ses gestes défensifs. Il a récupéré un paquet de ballons, il a fait de très bonnes couvertures, que ce soit en défense placée ou en transition rapide de 3. Et c'est de toute façon ce qu'on avait déjà observé ces derniers temps dans son jeu, comme à l'image de Da Costa, qui lui aussi développait un peu plus son côté défensif. Et quand tu prends le jeu défensif de Klose entre cette saison, ou en tout cas cette deuxième partie de saison et la saison dernière, Alors, il y a quand même du. Tu vois que le mec, sur
Une
ça aussi, il
évolution,
progresse,
ouais.
quoi. Déjà qu'il gagne en régularité, comme le disait Greg, où le match qu'il fait ce week-end, bah, il en fait des paires. Mais des matchs complets comme ça, que ce soit offensivement que défensivement, bah, il y en a de plus en plus. Et c'est sur ça aussi qui fait qu'il passe un palier et qu'il peut aller encore plus haut.
Ouais. On a
Je
dans le
peux
chat
juste,
Aka.
Valentin,
Ouais.
juste dire juste un dernier truc. À la Coupe du Monde, là, tu sais, il y a les matchs de poule. Et il y a toujours un match où tu fais jouer les remplaçants, tu sais, parce que tu es déjà qualifié. Et ben moi, j'annonce ce match-là. Ce sera passe décisive de Klose pour un but de Nkunku.
Très
Mais qui
bien.
dit qu'il ne sera pas dans les titulaires?
Mais il jouera,
Ça se trouve, il va jouer les deux premiers matchs,
ce
Sébastien, et
sera
il
son
sera
remplaçant qui
qualifié.
jouera ce match-là.
Inch'Allah, ça va,
Après,
c'est pas grave.
c'est Coman quand même,
C'est
l'autre.
bon.
Mais bon.
Je lui
C'est
souhaite.
pas le même
C'est pas
profil,
vraiment
Coman et
Coman, en
Klose, pour
fait.
moi.
Bah oui, ouais, voilà,
Hein.
ça dépend.
C'est Deschamps qui fait
Ça
son équipe.
dépend.
Hein.
Moi, j'ai
Christophe nous dit
lancé
d'ailleurs.
une bombe. Oh là
Ouais. Christophe nous dit
là.
d'ailleurs que
En plus,
Deschamps
on sait que t'en es
n'a.
les secrets des dieux, en plus, Sébastien. Et puis, le match des coiffeurs, j'imagine que ça te concernait. Ça peut te
Surtout
concerner
en ce
aujourd'hui.
moment.
Surtout
Surtout
en
en
ce
ce
moment.
moment.
Pas le jaloux.
Deschamps n'a surtout personne d'autre de meilleur que lui aujourd'hui. Et donc, la sélection de Klose, quoi qu'il arrive, sera obligatoire
Ah bah, c'est
en
heureusement.
équipe de France. On a Caron Sport qui nous dit, concernant le coup franc du troisième but, le coup franc est tiré dans la bonne zone de la surface qui empêche le gardien de sortir, tout simplement. Et déjà, ça, c'est très bon. Et puis, on a un autre message qui nous dit que même Payet n'est pas à 12 passes décisives cette saison, alors que c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du championnat. Donc, c'est quand même à noter
Et
qu'il
qui
y a.
tire les coups de pied arrêtés.
Et qui tire également les coups de pied arrêtés Dimitri Payet.
Ouais, il joue avec Bamba Dieng. Donc, bon.
Hein. Il n'y a pas que lui quand même.
Wow. But de la saison.
Ouais, bah,
Et
je sais.
d'ailleurs, et pour parler de ce but, je comprends, il est valable
De quoi le
de
retourné de
Klose?
Bamba de Klose?
Ouais, le coup
Alors,
franc.
moi, j'ai dit,
Oui.
enfin, j'ai eu peur parce que
Coup
pour
franc, j'ai pas
moi,
hors-jeu.
Medina est hors-jeu.
Non,
Pour
il n'est
moi,
pas hors-jeu.
Medina est
Non, il n'est pas
hors-jeu.
hors-jeu.
Est
C'est
hors-jeu.
Sotoka qui est
Et
hors-jeu.
puis,
Il fait action de jeu
Medina n'est
aussi.
pas
Non, il
hors-jeu.
n'est pas hors-jeu. Il n'est pas
Ah,
hors-jeu. Il
non,
joue, il y a un joueur
alors.
qui est
Si.
joué. Il y a joueur
D'accord,
juste dans
ok.
son dos.
D'accord, ok.
Moi, je
Alors,
pensais
il y
qu'il allait
a
être
un joueur en
refusé.
soi qui est hors-jeu,
Franchement.
en tout cas.
Oui,
Moi aussi, je
Sotoka.
pensais que ça allait être refusé. J'ai cru que ça allait
Je vous
être
invite à
refusé.
regarder l'image. Tu vois le Texier qui, quand il valide le but, il dit il n'y a pas hors-jeu et il valide. Parce qu'effectivement, si Medina est hors-jeu, même s'il ne touche pas la balle, le but ne peut pas être accepté pour moi. C'est
À
pas possible.
partir du moment où tu annules le but de Saïd dans le derby, alors que
Ah, c'est parce
Kakuta
que, ouais,
est à 4 mètres du
match
but
aller.
du joueur, évidemment que celui-là il aurait dû être annulé,
Mais
mais il
l'avantage, c'est
semblerait.
qu'il a été,
Mais
il a été
non, il
accepté.
n'aurait pas dû être annulé, il n'est pas hors-jeu.
Mais l'avantage, c'est qu'il a
Non,
été
mais il fait
accepté,
action
donc
de
le
jeu.
débat n'existe pas, messieurs.
Mais voilà, il n'est pas
Le
hors-jeu.
débat n'existe pas.
Il peut faire action de jeu, il n'est
Il
pas
n'est pas
hors-jeu.
hors-jeu.
Oui,
Et
il est
au départ
absolument.
du ballon, il n'est pas hors-jeu.
Il n'est pas
Mais dans
hors-jeu.
son camp.
On est dans
Messieurs,
un dialogue,
messieurs. Allez,
on est
en
dans un
discutant.
dialogue de sourds extraordinaire.
Je vais vous faire plaisir. On a un message de Sam Duhamel dans le chat de l'émission.
Ah non, pas lui.
Qui nous dit, je vous écoute depuis 5 minutes et franchement, je me dis que cette émission est bien plus intéressante quand je n'y participe pas. Sans Greg
C'est la
Lallement, ça
première fois
aurait
qu'il.
été encore mieux, mais vu que je coupe le son quand il parle, ça passe. Voilà.
C'est la première fois qu'il dit quelque chose de très vrai, Samuel Duhamel.
Allez, messieurs,
Donc
on
voilà.
va passer aux notes, si vous voulez bien. J'ai choisi deux joueurs que vous pouvez noter. On a d'abord, bien sûr, Kalimundo, hein, qui a fait aussi un très bon match, je trouve. Et puis, on a Kevin Danso, qui devient de plus en plus le patron de la défense du Racing. Et on est très content qu'il ait signé 5 ans, parce que ce joueur, j'ai l'impression qu'il va être un des tauliers de l'équipe la saison prochaine. Et il a d'ailleurs déclaré, j'ai jamais joué dans de telles ambiances, alors que le mec a quand même joué en Allemagne. Bon, voilà. Ça fait quand même plaisir.
Bon.
Notez Kevin Danso ou Kalimundo, je vous laisse le choix et je vais commencer avec Antoine Combes qui n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure.
Je vais prendre Tanso et dire que bah, c'est un braquage hein, de toute façon, c'est 5 millions d'euros, je crois.
Ouais, c'est ça à peu près,
Donc
ouais.
c'est clairement un braquage. Je l'avais déjà dit lors d'une précédente émission. Le fait d'avoir remplacé Badé en prenant Tanso, bon, c'est clairement encore un coup de génie de la cellule de recrutement et il le prouve une fois de plus avec une prestation XXL. Hein, comme je l'ai dit en début d'émission, un peu bousculé par Tousgar physiquement sur le début du match, ce qui ne lui ressemblait pas, mais bon, ensuite, voilà, de Tousgar qui a voulu un peu. À l'image de Troyes, où physiquement il était beaucoup, beaucoup mieux que nous dans tous les duels. Mais au fur et à mesure du match, bah, le patron est redevenu patron. En ces terres, hein, et il a clairement, je pense, pas sonné la révolte, mais remis les idées à l'endroit de tout le monde, notamment après le but. Et a
Comme face à
ré...
Clermont d'ailleurs.
ouais, et il a réinsufflé un élan de confiance, hein, même s'il était jamais disparu. Mais il n'a peut-être pas le brassard de capitaine, mais c'est pour moi l'un des gros patrons de cette équipe, indispensable, indéboulonnable. Et le voir en plus scorer sur des corners, chose qu'on ne voit pas assez souvent, parce que bon, il a quand même un certain gabarit. Bon, des fois, il n'est pas en réussite, hein, comme à Reims la semaine dernière, où sa tête passe juste à côté.
Sur un très bon corner de Klose, d'ailleurs.
Ouais, exactement. Bon, le seul du match, hein, parce que la semaine dernière, c'était pas ça. Hein.
Et du coup, ta note pour Kevin Danso, Antoine?
Bon, je lui mettrais 7, j'aurais pu lui mettre 8, mais vu les 20 premières minutes un peu compliquées, je lui mets ouais. 7.
Ok, ça marche. Je passe à Guillaume Perrard. Tu choisis Cali ou Danso?
Moi, je vais rester sur Danso. Je vais continuer les éloges d'Antoine. Et c'est vrai qu'au début de match, alors je ne sais pas si c'est Danso qui était un peu, mais moi, tout le gars, il m'a vraiment épaté. J'avais pas l'image d'un joueur aussi. J'avais l'image d'un joueur qui prenait la profondeur, qui était parfois assez tueur en face à face. Et là, je l'ai vu en pivot résister à la masse de Danso. C'est vrai que bon, donc Danso a du mal parce que ça, je pense que Toulgar est quand même rapide et c'est un petit gabarit, enfin un gabarit plus petit que le sien. Et du coup, il a eu un peu de mal. Mais après, bon, bah, il est monté en puissance. Son but, faut le mettre. Hein, il déclenche sa frappe très très rapidement. Enfin, c'est d'une fluidité.
En pivot, ouais.
Pourtant, Danso, quand on le voit, c'est quelqu'un de, il paraît massif, alors que bah, c'est l'un des joueurs les plus rapides de Ligue 1 en sprint. Mmh. C'est l'un des joueurs du coup qui est très tonique sur ses, alors que la masse c'est impressionnant. Et puis oui, c'est un capitaine, mais comme il y en a quasiment 11 maintenant dans cette équipe, moi je lui mets un 6,5. Allez, je lui mets pas 7 parce que il a pas non plus été beaucoup, je trouve, sollicité en deuxième mi-temps. Et puis il a fait une belle course quand même pour féliciter Kalimundo, c'est vrai aussi, il faut le dire, donc c'est un bon 6,5.
Dans le chat, Johan nous dit que Danso c'est finalement peut-être plus fort que Badé, qu'on a fait un bon
bah
coup.
Oui.
C'est ce qu'il nous dit dans le chat. On a Corentin qui nous met 7 pour Danso et 7 pour Kalimundo. Greg, tu veux noter qui, Danso ou Kalimundo?
À chaque fois, je tousse parce que vous mettez la pression. Bah moi, je vais voter Kalimundo. Enfin, je vais voter Kalimundo. Ouais, je vote Kalimundo. Je vais noter Arnaud Kalimundo parce que vous avez donné votre note pour Danso et cette inspiration parce que elle ressemble un peu. Enfin, il a vraiment pas d'angle pour la mettre. Il a 20 ans. Il faut rappeler quand même. Hein, c'est quelqu'un ouais. qui a 20 ans.
C'est un meilleur buteur renard de sa génération hein, cette année en Europe. Hein.
C'est ça, on a l'impression d'avoir un geste de Paoletta quand il avait 30 ans, qui avait un peu juste le petit coup d'œil avant et qui mettait le geste exactement juste. Franchement, là, c'est un peu comme ce Tocol, but qu'il a mis contre Clermont. Hein. L'angle, il est quand même hyper réduit. Il la frappe même pas, il la lève un peu. Ça suffit à l'Aubin gardien, qui est quand même en plus assez grand, qui est à son premier poteau et qui, normalement, bon, il est surpris parce qu'il ne s'attend pas à une touche comme ça. C'est un vrai geste, une inspiration géniale. Et c'est quand même le but à la 44e minute qui fait basculer cette rencontre, hein, on ne va pas se mentir. Dans la tête des Troyens qui venaient encore 1-0 5 minutes avant, quand vous prenez un geste de génie comme ça juste après une égalisation et juste avant la mi-temps, c'est quand même un sacré coup du sort. Et voilà. Et puis, c'est 12 buts, je crois, cette saison, Arnaud Kalimundo. Ça fait très longtemps qu'un Lensois n'a pas réussi ça. Il y a Daniel Cousin qu'on avait mis une quinzaine. Mais ça, il faut déjà remonter à une certaine époque. Donc voilà, gros coup évidemment depuis le début de saison d'avoir gardé Arnaud Kalimundo. Et moi, je mettrais un 6,5 aussi parce qu'il n'a pas été au bout du match et on ne peut pas vraiment dire qu'il a été non plus extraordinaire. Mais ce geste-là, il mérite déjà une bonne note. Hein. Rien que ça, c'est ce qu'on attend d'un attaquant en tout cas racé comme lui. Quoi.
Ok, allez, on finit avec toi, Sébastien.
Bah, écoute, je vais parler de Kalimundo aussi, même si Greg, il m'embête parce qu'on est plus ou moins de la même génération et il prend à chaque fois les exemples de gens que je connais.
On n'a pas la même carrière quand même, ouais. Sted. Tu es beaucoup plus légitime ouais. que moi quand même.
Je fais un petit mot pour Danso quand même parce que franchement, j'adore. Moi, j'adore et effectivement, je suis d'accord avec vous, Antoine, Guillaume. Voilà, c'est un capitaine, c'est le boss quoi derrière. Moi, j'adore vraiment joueur. Et Kalimundo, écoute, Greg a tout dit. Voilà, je lui mets 7 ouais. parce qu'on doit noter. Voilà, moi, je mets 7 parce que il met le deuxième but et quel but. Voilà, quel but.
Magnifique.
Et sincèrement, l'image de Paoletta, c'est exactement ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec Greg. Et puis voilà, et puis c'est quelqu'un qui est instruit dans les valeurs lensoises, en fait, sa combativité. Alors bien sûr, il va perdre des ballons, c'est un attaquant, il va tenter des choses, il ne va pas toujours faire les bons choix, mais il est toujours là, il a toujours envie, il donne, qu'il soit titulaire, qu'il soit remplaçant, le mec, il est toujours là, il donne, il donne, il donne, il ne fait pas la gueule, qu'il rentre, qu'il sort, qu'il soit… Enfin, le mec, franchement, voilà, donc respect. Respect, meilleur buteur de sa génération, comme tu dis, dans les 5 championnats européens. Ouais. Bon, écoute, il n'y a rien à dire. Voilà, donc ouais. 7
pour Kalimundo.
Je finis juste là-dessus.
Ouais, rapide, parce qu'on est en retard, Greg.
On est en retard, bah, juste pour dire qu'en plus, je trouve que dans son langage corporel, il partage de plus en plus. Il a l'air de plus en plus impliqué. Il embrasse le maillot, il joue avec le public. Et je ne sais pas pourquoi, mais lui qui était assez réservé, presque par nature, plus ça vient, plus il se lâche. Et il participe à tout ça. Et voilà,
c'est l'ambiance de c'est le public du Racing qui est le dévergonde peut-être aussi un peu. Ouais. Peut-être. Rapidement, vraiment, je vais vous laisser un seul choix. Donc, celui qui se prononcera en premier aura la parole. Un carton vert ou un carton rouge. Si quelqu'un veut se prononcer, qu'il lève la main et ce sera le seul. Eh bien, Greg, alors vas-y.
Moi, je vais faire carton rouge et carton vert en une fois. C'est-à-dire carton rouge sur le débat que je vois souvent sur les réseaux sociaux sur qui mérite d'aller en parkage, qui est plus légitime pour être supporter de Lens en ce moment. Je trouve ça assez insupportable. Tout le monde devrait juste être heureux d'avoir aujourd'hui 5 ou 6 000 personnes qui se déplacent, quelle que soit leur génération. Moi, j'étais à Reims. J'ai vu des gens qui étaient là depuis 40 ans qui sont supporters de Lens. J'ai vu des mecs qui étaient là depuis cette année, peut-être depuis 6 mois, mais j'ai vu surtout des tribunes extraordinaires. On doit juste se régaler de ça. Et ça, voilà, ça m'amène à mon carton vert, juste une petite pensée pour les mecs qui vont finir leur grand chelem ce week-end, c'est-à-dire les supporters de Lens qui ont fait tous les déplacements cette saison autorisés. Il y a des mecs qui les ont fait en stop, qui les ont fait à vélo. Il y avait encore 8 mecs qui sont partis de Paris pour aller à 3 à vélo. Il y a des mecs qui sont partis en avion biplace il y a 2 semaines pour aller à Reims. Ce public, il faut pas banaliser ce qui est en train de se passer. Il faut justement au contraire que les gens, et avant le match de samedi, voilà, se dire que c'est juste une chance aujourd'hui de voir des matchs à Bollard et des matchs de Lens à l'extérieur, parce que c'est hyper rare dans l'histoire du football français d'avoir de telles migrations et d'arrêter de se taper dessus, juste d'être content d'avoir une telle communauté.
Ouais, c'est la vague sans heure, hein, dont parlait Mathieu dans son édito sur culturesansheure.com. Messieurs, on va conclure cette première période et passer à la mi-temps si vous le voulez bien pour le quiz Culture sans heure. On va jouer le temps de quelques minutes. Alors le Racing peut encore se qualifier lors de son match face à Monaco pour une Coupe d'Europe lors de la dernière journée. Et c'est déjà arrivé, et oui, à une équipe du Racing lors de la saison 2005-2006 qui s'est qualifiée pour une Coupe d'Europe lors de la dernière journée lors d'un match face au FC Nantes. Eh bien, je vais vous demander la compo du Racing Club de Lens lors de ce match. Le 13 mai 2006, le Racing Club de Lens affrontait Nantes et l'a vaincu 3-1 et s'est qualifié en terminant 4e pour la Coupe de l'UEFA à l'époque. Compo du Racing Club de Lens, et je vais commencer avec Guillaume Perrard. C'est parti.
Charlie Tange.
C'est bon. Sébastien Dallet. Bah, peu importe quelle position je te mets, Seb, tu vas râler de toute façon.
Non, ça me fait rire. Alors à chaque fois que je dis ces joueurs-là, ils sont pas de cette époque-là.
On est en 2005-2006, Seb.
2005-2006. Koulibaly.
C'est bon. Koulibaly, ça passe. Antoine Combe.
Hilton.
Hilton, ça passe aussi. Greg.
Arouda Didane.
Arouda Didane, c'est bon. On repasse à Guillaume.
Alou Diarra.
Ouais, ça passe à Alou Diarra. Seb. Allez, dis un nom.
Je dis un comme d'hab. Siberski.
Non, pas de Siberski. Il était déjà plus là. Merci, Sébastien. Antoine.
C'est Dou Keïta.
Ouais, c'est Dou Keïta, c'est bon. Greg.
Ah oui.
Benoît Souikoto.
Ouais, Benoît Souikoto aussi. Guillaume.
Daniel Cousin.
Eh bien non, pas de Daniel Cousin, titulaire dans l'équipe ce soir-là. Il s'était brouillé.
Ah, ils sont tous en train de regarder quelque chose.
C'était brouillé ?
Non, moi je note ce qu'ils sont dit.
Brouillé en fin de saison.
Il s'était non, c'est brouillé. En 2007 ça.
C'est l'année d'après ça.
Ah, c'est l'année d'après. Ah, bon.
À 3.
Ah, excuse-moi, alors je me trompe. Pardon.
Attention à ce que tu dis,
mais il n'était pas titulaire, ça c'est sûr. Voilà.
Oui, j'ai vérifié.
Greg, non, c'est à Antoine. Non, on est à
moi,
Antoine.
C'est à moi.
Ouais, Antoine.
Jussier.
Ouais, Jussier, c'est bon, bien sûr. Greg Lallement.
Johan Démon.
Ouais, Johan Démon.
Oh, on l'a pas dit, je l'avais noté. Non.
Antoine.
Alors, attends, je regarde, il en manque.
Bah non, regarde pas du coup.
Deux. Non, mais je regarde qui j'ai noté, qui sont sortis. Il en manque deux. Tomer.
Ouais, Tomer, c'est bon. Il en reste un, Greg.
Alors du coup, moi j'ai comme un doute, mais je pense que Jussi a dû jouer avec Aruna du coup devant, et j'aurais tendance à dire Eric Carrière.
Eh bien non, pas d'Eric Carrière qui était sur le banc, et Antoine Combe à la main, est-ce qu'il veut finir? Quoi qu'il arrive, il a la main, il va remporter le quiz, son premier.
Ben, j'aurais dit Carrière en dernier aussi, mais j'avais un doute, vu que Jussi a joué, je me suis dit que Carrière n'avait pas débuté.
Non, non, il y en a un autre que vous oubliez.
Ouais, je sais.
Ah, je sais qui. Ouais.
Je sais, j'ai une idée.
À quoi qu'il arrive, tu as remporté ce quiz. Hein,
bravo Antoine.
Je vois pas le dernier.
Prêté par l'Olympique Lyonnais.
Pierre-Alain Froh.
Ouais, Pierre-Alain Froh.
Moi, je l'avais pas.
Moi, ouais, j'avais mis Karim.
Titulaire pour le.
J'avais Gemma.
Ah, t'avais Gemma. Moi, j'avais Karim.
Il était pas là. Bravo Antoine. Antoine, bravo, qui remporte son premier quiz Culture Senior. Magnifique.
Avec de la concurrence, hein.
Tu dois payer la
J'étais
tournée.
Bien content que...
ah, on gagne pas toujours devant Sébastien Dallet. Ça, c'est vrai que c'est pas facile.
J'étais bien content parce que sinon, mes questions suivies hier, c'était les buteurs. Donc...
Jussier, Dindane, Koulibaly.
Ouais, exactement. Et après, j'avais les minutes au cas où.
Alors, je pense que je les ai à peu près. Voilà. 86e pour Koulibaly.
Ouais, 85, bien joué. Ouais. Allez, on passe à la deuxième mi-temps. Messieurs, pour... continuer cette émission, on va passer à l'actu du Racing en deuxième mi-temps et on va parler des choses qui fâchent, hein, parce que ça sent le roussi pour la réserve du Racing Club de Lens. Relégable, eh bien, les hommes de Johan Démon ont perdu ce week-end à domicile, défaite de 2-1 contre Saint-Quentin dans un match où la motivation de certains laissait à désirer, apparemment. Un revers, hein, aux conséquences catastrophiques, car eh bien, devant, Metz et Schiltigheim l'ont emporté. Le Racing accuse maintenant 5 points de retard sur le premier non relégable, alors qu'il ne reste plus que 2 matchs à jouer. Comme vous savez bien calculer, ça fait 6 points. Donc voilà, les Lensois n'ont plus trop le destin entre leurs mains, et ils pourraient même être officiellement bien relégués dès le week-end prochain, alors qu'ils affronteront Beauvais samedi. Est-ce que c'est cuit pour la réserve, Greg?
Ah bah c'est cuit, on n'a pas le droit de le dire parce que c'est pas officiel, mais moi j'étais au match samedi. Ouais, cette équipe elle a trop de lacunes, ça on le sait, mais en plus, comme j'écrivais ce matin dans La Voix des Sports, enfin on l'écrit, voilà, c'est qu'il y a énormément de joueurs, il y a des joueurs qui savent qu'ils vont rester, qui ne vont pas rester. C'est compliqué pour Yann Desmond d'impliquer tout le monde jusqu'au bout. Il y a des joueurs même qui aujourd'hui font déjà des tests ailleurs, ils s'entraînent plus tout à fait avec le RC Lens. Dans ces conditions, il faudrait gagner les deux matchs en espérant que Schiltigheim et Metz perdent les deux. Et surtout, cette équipe, elle est, voilà, encore là, elle perd un point. Enfin, elle marque presque de manière miraculeuse sur un missile de balai, un but extraordinaire à la 86e. Derrière, il y a peut-être une main ou un truc litigieux dans la surface de Saint-Quentin. L'arbitre siffle pas et franchement, bon, voilà, c'est litigieux et tout le monde s'arrête. Et là, c'est vraiment de la maturité. Ils s'en manquent de maturité. Derrière, ils prennent un contre encore. Ils arrivent à perdre ce match qu'ils auraient très bien pu faire match nul. Donc, ils perdent les matchs. Ils gagnent pas les matchs qu'ils doivent gagner. Ils perdent les matchs où ils peuvent faire match nul. Techniquement, c'est franchement.
Là, on se souvient du match contre Bobigny aussi, hein, où ils mènent à la 90e 2-0, notamment.
Et à 10 contre 11, hein, à ce moment-là, ils sont à 11 contre 10. Ils mènent 2-0 à la 90e. Ils gagnent pas le match. Et puis, au-delà de ça, techniquement, franchement, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Alors, il y a la pelouse d'avion qui, en plus, est. Faire quelque chose un jour là-dessus, mais voilà, j'ai un peu de compassion quand même pour le staff de Johan Démon, même s'il doit évidemment essayer de trouver des solutions, mais techniquement c'est vraiment très 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 faible. Il y a Custos devant qui sert absolument à rien, le mec qui est rentré à la fin, franchement il a l'air très sympathique, mais aucune intensité dans ses courses. Le mec, il lui reste 10 minutes pour sauver un peu son équipe, et on sent en fait un fatalisme. Heureusement qu'il y a des Sambasso, heureusement qu'il y a encore des Bilal Hamdi, des mecs voilà, qui se battent. Sambasso, il joue quasiment avec un genou en moins. Il s'arrache pour le club. Mais franchement, c'est même pas un miracle qu'il faut. Moi, j'y crois vraiment plus du tout pour eux. Alors, on pourra peut-être ressortir cette décla dans deux semaines.
Il n'y a pas beaucoup de risques quand même.
Mais j'ai quand même peine à imaginer que cette équipe elle va se révolutionner dans les deux semaines, et surtout que tout va se faire, enfin tout va rentrer dans l'ordre et que les planètes vont s'aligner, alors que depuis le début de saison c'est catastrophique.
Ouais, une descente en N3 s'annonce.
J'aurais deux petites questions. De une, par rapport à la pelouse, pourquoi ils jouent pas sur un terrain de la Gaillette?
Alors, je pense que c'est un accord simplement, puis c'est, je crois que ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il y a une vraie réflexion quand même, parce que.
Ouais, mais si le terrain n'est pas praticable.
Ouais, c'est sûr. Et c'est l'une des explications, mais je veux te dire, et le fond de ma pensée, c'est qu'évidemment, il n'est pas facile, mais je pense presque que ça améliore presque le jeu en soi. En tout cas, ça détériore le jeu des adversaires. Parce que franchement, ouais. Techniquement, cette équipe, alors il y a un manque de confiance. Hein. Il y a pas que, il y a, je pense au petit, il y a des joueurs un peu techniques, comme le petit Hadj Moussa qu'on a bien vu en début de saison, qui s'est un peu perdu. Il y a des mecs qui ont un peu de ballon. Mais après, c'est surtout une question d'implication, de volonté de passer des caps, peut-être de qualité simplement. Mais,
et puis sur cette fin de saison, il y a aussi l'annonce de ceux qui ne seront pas conservés. Et donc forcément, ça aussi, ça joue... Ça joue sur la motivation, comme tu l'écrivais d'ailleurs, Greg, dans La Voix des Sports.
Ouais, c'est quoi ta deuxième question, Antoine?
C'est est-ce que le. Parce que bon, c'est quand même. Faut pas. Moi, j'entends les gens dire oh, la réserve d'essence et attention, la formation ansoise. Mais est-ce que, bon, déjà de une, la réserve ansoise n'est pas descendue depuis combien de temps par rapport à toutes les autres réserves professionnelles?
Ouais. En fait, je vais dire simplement. Pardon.
Et surtout, est-ce que ce n'est pas la conséquence du fait que le projet Lensois plus global, c'est de façon logique très concentré sur l'équipe première, de, voilà, le projet Ligue 1, etc. Et du coup, la formation est un peu passée sur une période de 3, 4, 5 ans, un peu en retrait, et peut-être par la suite, revenir au premier niveau, quoi.
Ouais, mais je pense que surtout c'est un creux. Le creux, il est pas ici. Le creux, il est toujours dans le recrutement des 4 plus 5 ans. C'est toujours comme ça qu'il faut voir les choses. Et moi, je me souviens de gens déjà au club à ce moment-là, après les affaires, les années azerbaïdjanaises, notamment, qui disaient à un moment donné, on va avoir un creux parce que ça manque de pépites, parce qu'on a peut-être. Enfin voilà. Et je pense que c'est aujourd'hui que tu le payes évidemment. Ouais. Et puis effectivement, c'est pas une catastrophe non plus de voir cette équipe descendre en N3. Le niveau est catastrophique cette année, mais il y a il y a énormément de réserves pro qui sont en N3.
Lens, le LOSC.
Oui, mais pas que, il y en a énormément.
On aura un derby. Hein.
Oui, voilà, on peut voir ça. Mais concrètement, ce n'est pas non plus une énorme catastrophe. Et Lens, il y a deux clubs en France qui ne sont jamais descendus depuis la refonte des années 90, du milieu des années 90. Il y a deux réserves seulement qui n'étaient pas descendues, c'est Lyon et c'est Lens. Bah, il n'y aura plus que Lyon l'année prochaine, mais ça dit aussi tout. Parce que moi, tous les ans, j'entends la réserve, elle galère, c'est pas normal, c'est une réserve pro. Mais allez voir les matchs de M2. Vous jouez contre des mecs qui ont 30 ans, qui ont, pour certains, 100, 150 matchs pro derrière. C'est des papas, c'est des mecs, il y a des salaires en N2, des mecs qui touchent 5 000, 6 000, 7 000 boules pour jouer en N2. C'est pas du tout, il faut pas imaginer que c'est du foot amateur comme le foot amateur des années 80 ou 90. Il y a du niveau en face. Et donc, ça dit surtout tout de l'exploit qui a été Lensois, entre guillemets, pendant toutes ces années. Je pense au Colbert Marlot, à ceux qui ont galéré, à Francaise, à ces joueurs, à tous ces entraîneurs, Eric Assadouan, tous ces entraîneurs qui ont réussi à amener cette équipe à se maintenir. Là, cette année, ça passera probablement pas. Ça ne veut pas dire que Yann Demont n'est pas un bon coach. Voilà. Il y a un manque de niveau dès le départ, on l'a vu. Cette équipe, en plus, a été très jeune. Il y a aussi des joueurs qui se battent. Hein. Tom Pouilly, par exemple, je pense à lui, il met beaucoup d'implication. Merlin, même si ce ne sera peut-être pas suffisant pour être pro, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup. Sambasso a fait vraiment du bien dans l'état d'esprit. Mais après, il y a des joueurs, Cory Sen, par exemple, franchement, j'ai beaucoup de respect pour c'est un gentil gars.
Il a joué avec les pros, hein, Cory Sen, non?
Oui, et puis pour le coup, c'est vraiment un mec qui joue le jeu. Mais concrètement, Cory Sen, il peut pas jouer dans une défense à 3 et faire des différences. Il a tenté un crochet samedi, il l'a réussi. Le deuxième, il s'est enflammé, ça a failli faire but. Juste après, il s'arrête complètement. Non, franchement, je pense simplement que cette équipe, elle n'avait pas le niveau dès le départ, mais c'est pas une catastrophe non plus de descendre à une 3, même si je comprends la déception générale. Okay. La bonne nouvelle, par contre, c'est juste le maintien des U19 qui arrive, et ça, c'était pas gagné il y a quelques semaines, donc ça reste une bonne nouvelle pour la formation.
C'est même fait depuis la semaine dernière, il me semble, les U19.
C'est ça, exactement.
Ouais. On va refermer ce volet réserve, on l'ouvrira peut-être dans de prochaines émissions. Je voulais qu'on parle rapidement, hein, qu'on touche un mot de ce qu'on a vu la semaine dernière, qui nous a peut-être un petit peu chagriné, en tout cas de cet accrochage entre Jean-Louis Lec et Thierry Malaspina. À l'entraînement qui a bien, en tout cas bien chauffé les deux joueurs, les deux, enfin, le joueur et l'entraîneur des gardiens, qui a fait que Jean-Louis Eka s'est blessé en tapant du poing dans une porte, tout simplement, hein, hommage peut-être à Johan Desmond, mais en tout cas qui fait qu'il ne jouera pas le dernier match de la saison, Jean-Louis Lec. On a eu peur un petit peu que ça vienne un petit peu mettre un grain de sable dans la dynamique du Racing. Comment tu vois ça, toi, Guillaume? Est-ce que c'est des choses qui arrivent dans un groupe pro, ou est-ce que tu as eu peur toi aussi que ça amène un petit peu de galère?
Deux choses.
Deux choses là-dessus, effectivement, dans un groupe professionnel, c'est des choses qui arrivent. Et on loue tellement le côté, l'ambiance, la symbiose au sein du groupe que voilà, moi, enfin, c'est quand même des choses qui peuvent arriver entre des mecs de 30 piges qui veulent jouer au foot. Et Jean-Louis Lecoq, quelque part, ça prouve aussi qu'il n'a pas dans sa tête, il a encore envie, je pense. Donc, il n'a pas décidé d'arrêter dans un match. Et puis, et moi, ce que je trouve là-dedans, c'est que la com du club, elle a été parfaite. Ils ont pas, on n'a pas commencé à laisser prendre de l'ampleur. Tout de suite, une réaction, voilà, il s'est passé ci, ça, ça. Ça sera réglé en interne. Et puis, d'ailleurs, on en parle parce qu'on en parle ce soir, mais honnêtement, pour moi, c'est déjà
Non,
passé.
c'est déjà passé, non, mais je voulais qu'on en
Déjà
touche un mot
passé.
rapidement, voilà,
Voilà, mais
savoir.
après, ce sont des choses qui arrivent. Moi, j'ai pas. C'est vrai que l'époque des deux monts qui tapaient dans la porte, des Kovacevic, et puis toujours deux monts d'ailleurs qui se battaient sur le terrain, etc. Bon, bah là, on avait du mal à s'en débarrasser. Bah, après, les résultats n'étaient pas bons. Donc, automatiquement, tu ressasses et puis tu expliques des résultats par ça, etc. Bon, bah là, on est tellement porté par une vague positive que, bon, un incident, on va dire, de vestiaire comme ça, bon, bah.
Ouais, mais c'est triste aussi pour Jean-Louis Lecca, hein, qui devait jouer le dernier match à Bollard,
Ah bah, il peut
etc.
là, par
Voilà.
contre, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Je veux dire,
Ouais,
quand
bien
on n'est pas
sûr.
content, quand on tape dans une porte, après, bah voilà, enfin, ça, c'est on se contrôle, on ne se contrôle pas. Ça le regarde lui, hein. L'essentiel, c'est que ça fasse pas de vague dans le groupe et que derrière, ce soit l'incident soit clos. Et puis voilà, que le club gère ça en interne.
Ouais, et dans le chat, on a Christophe qui nous demande pourquoi pas Greg rapidement, si tu peux nous parler de Malaspina, est-ce que c'est un sanguin? Est-ce que il dit j'ai jamais réussi à me faire une idée sur lui, très chaud sur le banc, est-ce que c'est un peu c'est quelqu'un du sud, hein, on sait que comme un peu le cas,
Ouais,
ils ont le
faut
sang
pas
chaud.
être caricatural, en tant que les gens du Sud sont
Non, non, mais pas
fatalement
forcément, mais
sanguins.
bon, on sait que voilà, ils peuvent être
Ouais,
parfois sanguins.
et
Pourquoi pas?
ouais,
Après, c'est une
après
caricature, je suis d'accord avec toi.
pas spécifiquement lui par rapport aux autres. Je pense que vous savez, on a tous joué au foot. Moi, je m'estime pas être forcément très sanguin dans la vie, mais sur un terrain, ben, à piètre niveau, dès qu'il y avait un truc qui partait un peu hors loops, je pouvais être aussi parfois énervé à l'entraînement avec mon meilleur pote. Donc, comme l'a dit Guillaume, voilà, sur Thierry Malaspina, ben, c'est quelqu'un qui connaît quand même bien Jean-Louis Lecca maintenant. Ça fait quand même, ils travaillent ensemble depuis, si je me trompe pas, depuis la saison 2018-2019. En tout cas, ça fait un bout de temps. Thierry Malaspina était le seul rescapé entre guillemets du staff de Philippe Montagnier. Donc ils se connaissent depuis longtemps. Je pense que vous savez, Michel Etor et Vedran Rougnou ont souvent travaillé ensemble. C'était pas les meilleurs amis du monde. Loin de là, il y a même eu des gros moments de tension entre eux. Et pourtant, voilà, je crois que c'est le sport de haut niveau. Quand vous passez des mois et des mois avec la même personne qui vous entraîne, qui des fois vous rentre dedans, etc. Moi, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, hein. D'ailleurs,
Bah, on a
peut-être on
entendu
s'est
qu'il
un.
s'était pris par le colbar et tout, enfin le colbac
Oui,
plutôt,
non, oui, mais
etc. Je veux dire.
ça peut. Oui, non, mais d'accord, mais le fond, ça, c'est la forme. Mais pourquoi c'est arrivé, moi, j'en sais rien. Par contre, bah ouais, quand vous êtes compétiteur, il peut y avoir plein de raisons. Sébastien, il a dû assister à plein de prises de tête, même entre des potes dans un vestiaire. Enfin, j'imagine.
Ah oh,
C'est
oui, tout à
déjà.
fait.
T'en as peut-être une à nous raconter de toi, par
Ça
exemple. Est-ce qu'une
t'étonne
fois,
pas,
tu.
Seb,
Est-ce
quoi,
que tu.
que.
Vrai. Est-ce que Seb, toi, tu vois, en plus, Seb, c'est quand même le mec le plus sympatoche qui soit. Seb, ça t'est déjà arrivé d'insulter un pote à l'entraînement que ça part en vrille?
Ouais.
Qui, par exemple? Explique-nous un petit peu.
Non, mais rapidement.
Lâche-nous. Non, 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 moi, en fait, moi, je ne supportais pas ceux qui trichent à l'entraînement. Donc, si tu veux, je pouvais me prendre la tête avec tout le monde. Voilà. Il fallait se défoncer, que tu fasses un simple footing ou un entraînement ou un taureau pour te faire plaisir. Tu es là, tu joues le jeu. Donc, en fait, si tu veux, j'avais mauvais caractère sur le terrain. Tu es là pour. C'est ton job, en fait. Tu vois, tu es payé, tu fais un métier extraordinaire. Donc, du coup, forcément, je me suis pris la tête avec beaucoup, beaucoup de mecs. Mais non, l'anecdote, le pire, ouais, c'est que je me suis battu un jour dans le vestiaire avec Christian Nadé. Je ne sais pas si tu te souviens, un joueur qui est parti en Angleterre assez jeune, qui était formé à l'Estac. Le seul joueur avec qui je me suis battu, en fait. Et j'ai un peu honte, mais en plus, c'était un jeune. C'était un costaud en plus. Et bref, voilà. Mais oui, tout ça pour dire qu'on peut, parfois, les situations font qu'on peut en venir aux mains ou avoir des paroles effectivement malheureuses. Après, là, je ne connais pas effectivement l'histoire. Par contre, quand j'entends la fin de l'histoire, c'est un peu ballot quand même.
Bah oui, mais
Frapper une
encore une
porte alors que t'es
fois.
gardien et que tu
D'ailleurs,
vas jouer le dernier match,
s'il se blesse pas, ça n'a
franchement.
pas du tout la même résonance,
Alors,
clairement.
non,
Est-ce que
sûrement
c'est
aussi,
pas.
sûrement aussi.
Est-ce que ça vient pas aussi, comme il est très proche de Cahuzac, que Cahuzac a annoncé sa fin de carrière?
Ouais, je sais pas. Bah, en vrai, on n'en sait rien. On va pas spéculer parce qu'on n'en sait rien. Bon, bref, donc, ouais. Voilà, on va pas,
c'est un peu con, quoi.
On va pas s'imaginer des choses. On sait pas. Je voulais juste, voilà.
Est-ce que c'est pas lié au doublé de Bozetti qui fait monter Annecy?
Non, ça s'est passé avant. Ça s'est passé avant. Bon, en tout cas, pour finir, on a Wakabayashi.
C'est Ajaccio qui monte.
On a Wakabayashi dans le chat et on sait qui est Wakabayashi et qui nous dit que ce sont deux hommes francs et sincères et ils se sont dit les choses. Passons à autre chose. Voilà.
Ouais, alors, bon. Le Wakabayashi, il sait que je peux être très con sur un terrain de football parce qu'on a joué ensemble et il le sait que voilà. Je peux vraiment être très con. Ça peut arriver à n'importe qui.
Donc voilà, on va passer à autre chose, mais je voulais juste voilà, qu'on évoque un petit peu rapidement parce qu'on ne va pas revoir Jolie les cas d'ici la fin du championnat et on verra ce qu'il en est de la saison prochaine. Messieurs, on va passer maintenant sur le match face à Monaco. Pardon, le dernier match de la saison hein, qui s'annonce bouillant face à des Monégasques et qui marchent sur l'eau, hein, il faut le dire quand même, hein, 9 victoires consécutives en Ligue 1, 10 victoires sur les 11 derniers matchs, 30 points sur 33 possibles, hein, il faut quand même le dire hein, parce que c'est énorme, une moyenne de plus de 2 buts par match, 2,5 buts par match hein, inscrits par les Monégasques, et en plus de ça, eh bien, ils vont jouer leur place en Ligue des Champions face au Racing qui lui aussi veut absolument gagner. Absolument gagné et donc du coup ça va être un match bouillant, ça va être en plus d'être une fête parce que c'est le dernier match de la saison, parce qu'on a envie de remercier cette équipe du Racing Club de Lens, en plus de ça on va avoir un match tendu avec un énorme enjeu pour les deux équipes et avant de vous donner la parole je veux juste voilà, parler de cette déclat de Fofana qui a dit la saison dernière Monaco nous a privé d'Europe, alors j'espère que cette saison c'est nous qui allons les priver d'Europe, c'est ce qu'a déclaré Seko Fofana.
Ça c'est pas très judicieux de le dire, enfin, moi, c'est... il a un peu donné un petit bâton de...
C'est lui qui l'a dit en tout cas, non, donc, non, mais d'accord, je lui laisse ses paroles. Voilà, je lui laisse ses paroles et je vais donner la parole moi par contre à Antoine Combes sur ce match bouillant qui s'annonce. Ça va être la folie à Bollard samedi soir.
Bon, on a tous déjà dit être. Hein. Je pense que dès la fin du match de 3, dès qu'on a vu qu'on était encore dans la course, on avait tous déjà la tête à Bollard. Hein. La semaine va être très longue. Et,
on n'a pas dit merci au LOSC quand même.
Wouf. Ouais. Merci au LOSC. Mais. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup.
Sur le match bouillant face à Monaco. Ouais.
Et oui, c'est un peu, ça me fait un peu penser comme quand on attendait le match Lens-Dijon, tu vois, c'est notre finale, le moment qu'on a attendu. On sait que le stade va être chauffé à blanc 2 heures avant le match, même bien avant dans les rues de Lens. Donc ça va être une belle fête. Je pense que peu importe le résultat final, bon, il y aura toujours des déçus et les joueurs les premiers si ça ne nous sourit pas. Mais rien que le fait de pouvoir vivre ça 2 ans après la montée. Rien que ça c'est un énorme cadeau et moi je prends mon pied total hein, moi qui ai connu quasiment que la Ligue 2 avec Lens, pouvoir vivre ce genre de finale il y a 2 ans j'en rêvais même pas hein, donc rien que sur ça non ça va être un énorme match et pour revenir par rapport justement au fait que Monaco est sur une incroyable série j'ai regardé un peu leurs résultats, déjà il y a quelques petits motifs d'espoir, ils prennent aussi des buts. Hein. Ils sont peut-être sur une moyenne de 2 buts par match, mais il y a très peu de clean sheet. Et sur leur série de 9 matchs, il n'y a pas non plus des grosses équipes. Hein. La majorité, c'est des petites équipes. Hein. Tu as du Metz, tu as du 3, tu as du Nice.
Ouais, tu as le PSG. Qui... Ouais.
Oui, bon, tu as le PSG, mais au tout début de leur série, 3-0. Mais bon, ouais, tu as Metz, 3, Nice, qui est en roue libre depuis 2 mois. Tu as Saint-Té, tu as Angers, tu as Lille, tu as Brest. Bon, c'est pas non plus c'est voilà, ils ont pas tapé Rennes, Marseille, Strasbourg à la suite quoi. Donc voilà,
ah, d'ailleurs contre Strasbourg ils avaient perdu. Ouais.
Voilà. Donc ils seront pas imprenables, mais de toute façon, moi je vois ce match un peu bah, de toute façon comme il faut le voir, une finale et c'est des genres de matchs peu importe tout ce qui s'est passé avant, ce sera des matchs très particuliers et il n'y aura qu'une vérité, ce sera pendant 90 minutes. On s'en fout de ce qui s'est passé pendant leur série de 9 matchs. Là. Ouais. Rien à foutre. Ils arrivent, on leur rentre dedans. Quoi. Il faut les respecter, mais il faut leur rentrer dedans tout de suite. Il ne faut pas les laisser. Et surtout, il faut retenir des erreurs qu'on a fait en Coupe de France. Parce que moi, je l'ai encore ici, le match de Coupe de France, où ils étaient largement prenables et où on a fait un peu n'importe quoi, où on paniquait. Sur nos pertes de balles et on a pris le bouillon en transition et en contre, donc j'espère qu'on sera beaucoup plus vigilant par rapport à ça et que cette fois-ci le poteau sera rentrant.
En tout cas, ouais, par rapport au match de la saison dernière et le poteau de Fofana, c'est vrai que moi j'en parlais beaucoup hein, sur cette fin de saison où je rêvais de ce match face à Monaco et où la fin soit tout autre que la saison dernière. C'est vrai également qu'on se rend pas compte à quel point on a de la chance quand même de vivre ce match avec autant d'intensité et autant encore de choses à jouer hein, au bout de deux saisons en Ligue 1. Dans le chat, on a Caron Sport qui nous dit peut-être sommes-nous l'équipe parfaite à jouer pour Monaco qui a l'art de contrer. Ça, on verra bien, on n'en sait rien. En tout cas, Guillaume, toi, ce match bouillant, comment tu le vois ?
Bon, qu'on n'a rien à perdre. Parce que par rapport au Lens Dijon, quand on évoque, là, contre Dijon, on avait beaucoup de choses à perdre. On avait vraiment tout à perdre. Notre saison, elle est réussie. Là. Notre saison, elle est réussie. On a 61 points. C'est marrant parce que tu as fait le quiz sur le 2006. Du coup, je suis allé voir cette saison-là. On a fini quatrième avec 60
points. 60 points, ouais. Quatrième. On fait mieux que cette saison-là, ouais.
On a 61 déjà. Points. L'année dernière, avec 58 points, on était en Conference League. Cette année, avec 64 points, on ne le sera peut-être pas.
Ouais, c'est incroyable.
Mais 61 points, c'est exceptionnel. Je veux dire, même en Ligue 2, il y a plein de saisons. J'ai regardé aussi la saison où justement on accroche le barrage avec Montagnier. On finit à 63 points. Sauf que les adversaires, c'était Orléans et compagnie. Là, on est en Ligue 1. On fait quasiment autant de points que la plupart de nos saisons en Ligue 2. Même en Ligue 2, quand on monte en 2013-2014, c'est 65 points. Donc, si on finit à 64 points, c'est exceptionnel. Après, le classement, bah, on verra le classement. Mais on n'a rien à perdre. Moi, j'ai un peu, l'année dernière, je me rappelle du match contre Monaco. Le match, à un moment, il y avait du coup en face, il y avait un Lyon-Nice, il me semble. Monaco ne savait plus trop ce qu'il devait faire à un moment. Et nous, j'ai trouvé que ce match-là, l'année dernière, il me semble qu'on avait démarré avec Cahuzac, Doucouré, Fofana. On avait été assez prudents. Et on a attendu un peu trop tard pour tenter de l'emporter. J'espère que cette fois-ci, de toute façon, cette fois-ci, c'est sûr, on va.
On parlera les deux de équipes doivent absolument gagner, quoi qu'il arrive.
On parlera de la compo après, mais je pense que là, on va pas attendre le dernier quart d'heure pour tenter quelque chose.
Ouais.
On va mettre nos forces offensives dès le départ. Et voilà, ce qu'il faut, c'est pas avoir de regrets, c'est profiter d'une grande soirée à Bollard avec une température estivale et puis contente que tout pour le tout. Et de toute façon, moi, j'aurais aucun regret. La saison a été magnifique. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau est là, il est énorme, le gâteau. Ouais, il manque peut-être la cerise, mais le gâteau est énorme. Donc, moi, mon bonheur, ma satisfaction de supporter, elle est satisfaite à 99,9%. Ouais. Donc, c'est des matchs pour moi, il n'y a pas de pression à avoir, il n'y a rien à perdre. Et...
Ouais, mais il y a quand même le sel malgré tout, même si on n'est pas on est dépendant des autres équipes, Sébastien, il y a quand même ce sel de qualif en Coupe d'Europe. Il faut absolument gagner ce match pour ne pas avoir de regrets, même si, quoi qu'il arrive, la saison est magnifique. Comme le disait Guillaume, on a déjà fait plus de points que la saison 2005-2006, où c'était une de nos meilleures saisons en Ligue 1. Enfin, voilà, il y a quand même ce sel de qualif, Sébastien.
Ouais, moi je suis d'accord avec Guillaume. La saison est réussie. Après, Marseille va terminer deuxième du championnat. Reims, moi je trouve que c'est vraiment une bonne équipe. Voilà. Donc c'est bien Reims-Nice, hein, c'est ça. Hein.
Ouais, Marseille va terminer deuxième.
Ouais, moi je crois que Reims c'est vraiment une bonne équipe. On a eu du mal à gagner là-bas. C'est le dernier match à domicile à Reims. Donc voilà, étant un peu supporter troyen aussi, bah, là je suis pour la Champagne et pour les Rémois. Et puis après, 4-3 pour moi, Lens-Monaco. Voilà.
Ah ouais, carrément. Bon, on le prononce après, mais t'attends de réfléchir d'ici là.
Il me reste 7% de batterie, je suis un dingue, c'est les arrêts de jeu, j'ai tout donné. Bing, je marque le quatrième but. Voilà, terminé.
Allez, on en reparle tout à l'heure, Sébastien.
Ouais, Greg.
Greg. Sur ce match face à Monaco. Alors, on a déjà parlé hein, de l'ambiance, de la fête, de dire merci à tous ces joueurs, peut-être des joueurs qu'on ne verra plus la saison prochaine. Mais il reste cette infime chance de qualif en Europe.
Ben elle est là, bien sûr. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'anciens du Racing qui ont vécu des dernières journées à Bollard importantes pour un sujet dans la Voix du Nord. J'ai eu Fred Mérieux, Valdivia, Kevin Fortuné, Charlie Tange. Et tous avaient ce truc-là, mais ils vont vivre un truc de malade. Quel match ça va être, m'a dit Pierre-Yves Valdivia, parce que tout est incroyable. Les deux équipes arrivent en pleine confiance. C'est des équipes qui envoient du jeu. Il va y avoir un public extraordinaire qui, comme le dit Guillaume, faudra juste que les gens soient libérés, parce qu'en général, dans ces matchs-là aussi, il y a une forme de tension, de regarder les matchs, les résultats de l'autre côté. Et des fois, en fait, je ne vais pas dire que les montagnes accouchent d'une souris, parce que c'est vraiment trop exagéré, mais... Des fois qu'on a
elles n'ont pas calculé les deux équipes. Hein. Elles ont pas calculé.
Oui, non, mais je parle juste du public surtout. Ouais. Que le public soit soit libéré, c'est pas facile à dire hein, parce qu'il y a une forme de tension, mais parce que quand on attend un truc comme ça, parfois c'est compliqué de se libérer. Donc voilà, l'équipe, je suis pas d'accord avec Antoine parce qu'Antoine il a été un peu contradictoire pour moi dans ce qu'il a dit, où il disait il faut que cette équipe elle envoie tout de suite, qu'elle rentre dedans et en même temps qu'elle fasse pas ce qu'elle a fait en Coupe de France. Alors que pour moi, justement, son problème en Coupe de France, c'est qu'elle commence très très bien le match, elle a pas mal d'occasions sur le premier quart d'heure. D'ailleurs, Guillaume était à côté de moi en tribune ce jour-là, je me souviens très bien, et elle se fait planter une première fois et derrière elle se liquéfie complètement parce que son plan de jeu a explosé. 90 minutes, c'est long.
Je pense que c'est contradictoire.
Hein?
Je pense que c'est contradictoire.
Bah si, c'est contradictoire parce que moi, pour moi, il faut pas qu'elle se jette à l'abordage. Justement,
Ah
faut qu'elle
non,
reste.
non, faut, non, quand je dis faut rentrer dedans, faut pas non plus qu'on ne soit honte
Oui,
devant.
il faut que. Alors on s'entend, il faut qu'il y ait quand même, évidemment, que dès les premiers duels, que cette équipe, elle marque son territoire. Mais qu'il y a 90 minutes et cette équipe,
Ah oui, non, mais ça
elle nous
oui,
a
ça
montré
oui.
que, elle nous a montré pour depuis 2 mois que, enfin, quels que soient les événements, ça peut se jouer sur la dernière occasion. Et j'ai envie de dire, bah, ce serait la PN parfaite parce que c'est ce qui doit arriver, en fait. On a l'impression
Il y a une
que cette
chose
équipe.
importante, Greg, pardon, c'est
Vas-y.
le dernier match de la saison dernière. Donc
Ouais.
ils vont pas, tu vois, ça va servir d'expérience aussi, d'où jouer
Je sais pas.
éventuellement sur un dernier match. Là, ils arrivent à cette occasion de nouveau, tu vois. Et je pense que voilà, il va faire du aise, Lens va faire du Lens. Ils vont pas changer leur jeu, ils vont continuer, peut-être avec une première mi-temps un peu moins bonne et une deuxième, on verra, tu vois, mais. Moi, je
Mais
suis
l'année
d'accord.
dernière,
Il faut que tout le monde joue libéré. Il faut pas penser au résultat. Ça, c'est clair. Il faut s'éclater. Voilà.
L'année dernière, au bout de 30 minutes, ça doit faire 3-0 pour Monaco, que les choses soient claires.
Oui,
Lens
oui,
était
oui.
complètement à l'agonie
Oui.
,
Moi, je
et que ça
parlais
fasse
du
0.
dernier match de la saison.
Ah
Quand
oui,
Lens,
c'est ça.
si Lens gagne l'année dernière, le dernier match, ils peuvent éventuellement
Oui,
accrocher.
mais en première
C'est
mi-temps,
ça.
Lance
Mais
prend trois banderilles.
Lens, à l'année dernière, ça passe pas le milieu de terrain pendant la première période
Ouais.
et ça peut faire 3-0. Et c'est finalement au moment où, pour le coup, Monaco a commencé à regarder les résultats des autres équipes et s'est dit un match nul, ça nous suffit. On a vu vraiment ce bloc. Alors, c'était un match à huis clos, hein, c'était encore le Covid, mon Dieu, quelle horreur. Et d'un coup, but, je crois qu'il y avait un but sur un autre stade, le match nul leur suffisait. Ils ont reculé de 30 mètres et là, Lens a eu la grosse occasion avec Fofana. Là, il n'y aura pas ça. Il faut que cette équipe elle joue son jeu. Comme l'a dit Guillaume, de toute façon, à maintenant, il n'y a pas à regarder les autres résultats. Par contre, ce qui est vrai, je pense vraiment que si cette équipe elle gagne, c'est ce qui sera le plus dur dans le scénario pour moi des 3 matchs qui concernent le Racing. Le plus dur, c'est de gagner ce match-là. Mais que Marseille batte Strasbourg au Vélodrome pour aller en Ligue des Champions, c'est pas complètement fou de le penser. Et Reims, c'est une équipe vraiment emmerdante et chiante à jouer. Et elle voudra pas perdre pour son dernier match. Donc,
C'est sûr aussi, ouais.
le scénario qui, moi, me semblait complètement improbable, encore même la semaine dernière, et pour le coup, le but des Lillois à la 96e, il change tout parce que,
Merci, ouais.
euh,
Pour le
parce
goal
que,
average
évidemment, pour
également.
le goal average, franchement, on va vivre un truc de malade. Que tout le monde profite de ce samedi soir-là, parce que des samedis soirs de foot comme ça, je pense qu'à Lens, il n'y en a pas eu 10 sur les 2 dernières décennies, ça c'est sûr.
J'espère que Marseille va assurer.
Et par rapport à l'année dernière, on sortait d'une défaite
Rapidement, Guillaume.
3-0, on sortait d'une défaite 3-0 à Bordeaux, hein.
C'est
On
vrai,
n'est
c'est
pas du
vrai.
tout sur la même dynamique.
Ouais,
Je
c'est
me
vrai.
rappelle aussi de Montagnier la fin de la saison 2019 qui disait qu'ils étaient portés par une vague qui les dépassait,
Les
etc. J'ai
barrages.
l'impression que c'est ce qui se passe également là, quoi.
Ouais, c'est exactement ce que nous dit
Le
Caron
club
Sport
est porté
dans le
par une
chat. Hein. Il
vague.
nous dit Lens n'arrive pas sur la même dynamique que la saison dernière sur ce match-là. Ouais, exactement, Guillaume. Rapidement, je vais vous donner la parole à chacun, mais il faudra aller très vite quand même. Sur la compo du Racing, comment vous voyez l'équipe type un peu comme face à 3 ou des changements, pourquoi pas, Seb?
Ça m'est égal.
Ouais, ok.
Je
Ouais, très bien.
fais
C'est une
confiance au
réponse
coach,
rapide.
voilà, tout simplement, en fait. Voilà.
Antoine.
On change pas l'équipe qui gagne comme à Reims, comme à 3.
Donc on met l'équipe type avec notamment Frankowski à gauche et Klose à droite. La défense, on la connaît. Guillaume, tu vois d'autres choses à changer ou pas?
La forme du moment, là, on est vraiment dans le sprint final.
Ouais.
Il n'y aura pas de changement pour moi.
Ouais, on va terminer avec toi, Greg.
N'y aura pas de surprise, mais j'avoue que. Le petit Gaël Kakuta, je ne sais pas pourquoi. C'est un match pour genre de mec. Alors après, on peut me dire qu'il est un peu bien moins bon. Et puis après, moi, je ne suis pas très objectif. Je trouve que Gaël Kakuta est un super joueur et que ce serait une sorte de summum absolu que ce soit lui qui amène la petite touche finale. Parce que tous les mecs qui jouent, les Corentin Jean, les mecs qui font banquette depuis un bout de temps, quand ils rentrent, ils sont extraordinaires. Et il manque le petit truc de Gaël Kakuta sur la deuxième partie de saison. Et je ne sais pas pourquoi. Je me dis que peut-être qu'il sera titulaire. Je ne sais pas. Il y a moins de chances qu'il le soit que David Pereira da Costa. Mais en tout cas, je miserais peut-être un petit exploit de Gaël Kakuta samedi pour se rappeler que comme il aime ce club et comme il a amené sa pierre à l'édifice à ce groupe.
Mais ce serait,
faudrait qu'il soit sur la feuille de match déjà.
Comment ?
Faudrait qu'il soit sur la feuille de match.
Ouais, il faudrait qu'il soit, oui, parce que c'est vrai qu'il était absent encore samedi soir face à 3. Ce serait malgré tout une belle sensation que ce soit Kakuta, c'est vrai, titulaire et qui conclut cette saison de la meilleure des manières. Messieurs, avant de terminer cette émission, je vais vous proposer de pronostiquer ce match tout simplement et de donner votre avis sur le score final de ce Lens Monaco samedi soir. Sébastien Dallet, tu ne changes pas donc ton pronostic.
4 buts. Un match de dingue.
Mais ça, on n'en doute pas que ce sera un match de dingue. Et tu nous pronostiques donc 4 buts à 3 pour le Racing. Antoine Comba.
3-2 pour Lens.
3-2 pour Lens, ce sera énormément. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera tendu. Guillaume.
3-1.
Et Greg.
Eh ben, on ne change pas une méthode qui gagne à moitié. J'irai 0-2 pour l'AS Monaco. Je pense que Lens va pousser à un moment donné, va se faire contrer. Mais comme vous savez, je suis assez dégueulasse en termes de pronostics. Je souhaite à tous les gens qui nous écoutent que je le sois encore une semaine de plus.
Bon, bah du coup, vu que tu as été le chat noir, je ne donnerai pas le pronostic de notre collègue Thomas Fauberg, hein, qui m'avait donné également un prono, mais on a déjà un chat noir, je ne vais pas en mettre deux. On sait
un
jamais.
Gros chat noir.
Un matou. Thomas, on sait qu'il a. On sait que Thomas dit toujours l'adversaire.
Il disait victoire de Monaco et également victoire de Strasbourg et de Nice. Voilà.
C'est un triple.
Excellent.
Allez, merci messieurs, merci pour ce débrief. On a hâte d'y être hein, déjà, on a hâte d'y être à samedi soir et évidemment à ce Culture sans ailleurs de lundi prochain hein, qui reviendra évidemment sur tout ça, sur ce dernier match du Racing de la saison, samedi soir 21h au Stade Bollard. Merci beaucoup messieurs, merci à tous de suivre l'émission en live, merci à tous ceux qui laissent des messages dans le chat de l'émission, sur YouTube, sur Facebook, à ceux qui nous suivent sur les réseaux, à ceux qui n'ont pas peur de la danse de Greg Lallemand, à ceux qui vont sur culturesansailleurs.com également. Merci à tous, on se retrouve lundi prochain, d'ici là portez-vous bien, ciao ciao.
Ciao.
Bonne soirée à tous.
Ciao, ciao.